l'écoute de VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Ici aux États-Unis, à défaut de débat, les deux candidats à la présidentielle du 3 novembre, le président sortant Donald Trump, un républicain, et son rival démocrate Joe Biden ont parlé en même temps sur deux chaînes différentes jeudi. Les temps forts de ces deux interventions dans quelques instants avec Jean-Roger Bion. Des foules de Guinéens enfiévrés se sont pressées jeudi à la rencontre de Sélou d'Alain Diallo, principal adversaire d'Alpha Condé, le président sortant, au retour de province de M. Diallo, à l'entame de la dernière ligne droite avant la présidentielle du 18 octobre. Le président Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat controversé, était lui-même rentré à Conakry mercredi soir après une tournée à travers le pays pendant plusieurs jours, malgré ses 82 ans, pour haranguer des foules chauffées à blanc pour fendre Sélou d'Alain Diallo et faire mentir ce dernier sur sa santé déclinante. 12 candidats sont en lice dimanche. En Côte d'Ivoire, l'opposition a franchi jeudi, jour de l'ouverture officielle de la campagne, un nouveau pas vers le boycott total de l'élection présidentielle du 31 octobre. Les explications de Jacques Aristide dans quelques instants. Au Mali, un casque bleu de l'ONU a été tué, un autre grièvement blessé jeudi par l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif à environ 50 km de Kidal dans le nord du pays, a annoncé dans un communiqué la mission de l'ONU. Et au Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement a annoncé jeudi qu'une vingtaine de personnes ont été tuées mercredi au cours d'attaques terroristes dans trois localités de la province du Séno, dans le nord du pays. La libération la semaine dernière de plusieurs otages étrangers et du chef de l'opposition au Mali, en contrepartie de l'élargissement de quelques 200 prisonniers djihadistes, a été payé cher. C'est ce qu'a estimé, tout en saluant la libération des otages, le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore, dans une interview à France 24 et RFI diffusée jeudi. M. Kabore affirme n'avoir pas du tout été au courant des tractations, notamment de la libération du cerveau présumé de l'attaque djihadiste de 2016 à Ouagadougou. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaël Chergui, a lui appelé à explorer le dialogue avec les extrémistes pour faire taire les armes dans le Sahel. Nous y reviendrons avec Yacouba Ouédraogo dans quelques instants. Condamné par contumace au Rwanda, mais résident en Belgique, le médecin rwandais Eugène Rwabuchio a été renvoyé devant les assises en France par des juges français pour génocide et crimes contre l'humanité, 26 ans après les massacres perpétrés contre la minorité Tutsi et les Hutus modérés en 1994 lors du génocide au Rwanda. Ici aux États-Unis, la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris a suspendu ses déplacements jusqu'à dimanche en raison de cas de COVID-19 dans son entourage. Et en Europe, nouveau tour de vis, les réunions privées à l'intérieur sont désormais interdites à Londres et dans plusieurs autres zones d'Angleterre, et les fêtes privées se tenant dans des lieux publics le seront en France en raison de l'évolution de la pandémie de COVID-19 en Europe, jugée très préoccupante par l'Organisation mondiale de la santé. Le risque d'attraper le COVID-19 dans un avion est très faible si les passagers portent un masque, selon une étude réalisée à bord de longs courriers Boeing 767 et 777 et publiée jeudi par l'armée américaine. Un ancien ministre mexicain de la Défense, le général Salvador Cienfuegos, a été arrêté aux États-Unis, selon le chef de la diplomatie mexicaine, qui n'a pas précisé le motif de cette arrestation, qui, selon les médias est lié à une enquête pour narcotrafic.
La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, l'opposition a franchi jeudi, à l'ouverture officielle de la campagne, un nouveau pas vers le boycottage total de l'élection présidentielle du 31 octobre, en demandant à ses partisans de boycotter les opérations électorales et la campagne et en affirmant ne pas être concerné par le processus électoral, Jacques Aristide.
L'annonce survient dans un contexte tendu, de nombreux observateurs redoutant une crise préélectorale ou post-électorale. Les deux principaux candidats de l'opposition, l'ancien Premier ministre Pascal Affine-Guessant et l'ancien président Henri Conan-Bédié, affirment que le processus électoral en cours ne les concerne nullement, sans toutefois faire état de leur retrait du scrutin. Ils appellent leurs militants à mettre en œuvre le mot d'ordre de boycott actif et à ne pas prendre part à la distribution des cartes électorales et la campagne électorale. Ils leur demandent de faire barrage au coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara, d'après eux, s'apprête à commettre et d'empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin. Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédié ont promis une conférence de presse ce vendredi. L'opposition réclame une réforme du Conseil constitutionnel et de la commission électorale, selon elle, inféodée au pouvoir. Elle estime que le président Ouattara n'a pas le droit de briguer un troisième mandat et conteste le rejet des candidatures de poids lourds, notamment celle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Des incidents ont eu lieu hier près d'Abidjan, de Dabou, Ganioa et près de Daoukro.
Un haut responsable de l'Union africaine, Smaïl Cherghi, appelle à explorer le dialogue avec les extrémistes pour faire taire les armes dans le Sahel, après 8 ans de crise au Mali. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le terrorisme et les violences entre communautés persistent et la menace s'étend en Afrique de l'Ouest, a déclaré Smaïl Cherghi, commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, dans le quotidien suisse Le Temps. Cette déclaration intervient alors que le récent échange par le gouvernement malien d'environ 200 détenus contre 4 otages, dont l'opposant Soumaïla Cissé, a relancé les spéculations sur une reprise des contacts esquissés avec les djihadistes. D'après Ismaïl Cherghi, la présence militaire de la France, l'ONU et la force du G5 Sahel n'a produit que des avancées non décisives depuis le début de la crise au Mali en 2012. Les partenaires du Mali qui se sont déployés au Sahel initialement pour une courte durée, rappelle le responsable, s'y trouvent toujours. Le moment est venu de revisiter et d'adapter les stratégies de stabilisation de la région du Sahel pour les unifier, poursuit-il, avant de conclure que, je cite, toute idée innovante est la bienvenue pour faire taire les armes en Afrique, en premier lieu celles portées par les terroristes et les extrémistes violents.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, à défaut de débat, les deux candidats à la présidentielle du 3 novembre, Donald Trump et Joe Biden, ont parlé en même temps sur deux chaînes différentes jeudi. Le président républicain s'est exprimé depuis la Floride sur NBC, son rival démocrate depuis la Pennsylvanie sur ABC, au moment où la campagne est de nouveau chamboulée par le coronavirus à 19 jours de l'élection. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ce duel à distance et en simultané sur deux chaînes de télévision différentes a offert un rappel visuel des divisions profondes de l'électorat américain, alors même que plus de 18 millions de bulletins de vote ont déjà été transmis avant le jour J, le 3 novembre.
It is a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done.
Joe Biden a critiqué la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire du coronavirus aux États-Unis, alors que le candidat démocrate à l'élection présidentielle et le président républicain sortant prenaient part à des émissions télévisées distinctes au lieu du deuxième débat initialement prévu. Il a déclaré qu'il n'avait rien dit à personne, qu'il avait peur que les Américains paniquent, a déclaré Joe Biden à propos de M. Trump lors de l'émission diffusée par ABC depuis Philadelphie en Pennsylvanie. Les Américains ne paniquent pas, Il a paniqué, a ajouté l'ancien vice-président démocrate. Donald Trump a de son côté défendu l'organisation d'un événement dans les jardins de la Maison-Blanche fin septembre pour annoncer le choix de la juge Amy Coney Barrett comme candidate à la Cour suprême pour remplacer la défunte Ruth Bader Ginsburg.
Je suis président,
je dois voir des gens, je ne peux pas rester dans un sous-sol, a dit M. Trump à la chaîne NBC devant un public rassemblé en extérieur à Miami, en Floride, critiquant implicitement son rival démocrate pour s'être confiné à son domicile pendant plusieurs mois alors que l'épidémie de coronavirus faisait rage. Cette soirée était initialement destinée à l'organisation du deuxième des trois débats entre Donald Trump et Joe Biden, mais l'actuel locataire de la Maison-Blanche a annoncé qu'il n'y participerait pas après que les organisateurs ont voulu que l'événement soit virtuel pour éviter tout risque sanitaire. L'ultime débat présidentiel doit avoir lieu dans une semaine, le 22 octobre, à Nashville, dans le Tennessee.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Cameroun, les consommateurs devront payer une taxe de 33% du prix du téléphone ou de la tablette à la sortie d'usine à partir de ce 15 octobre 2020. Les importateurs et autres utilisateurs des terminaux mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, pourront payer ces droits de douane par voie numérique via une plateforme gouvernementale placée sous l'autorité du ministère des Postes et Télécommunications. Ces paiements sont censés ramener annuellement 50 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Au Burkina Faso, les recettes d'exportation d'or ont augmenté de 1420 milliards de francs CFA en 2019, apportant 275 milliards de francs CFA au budget de l'État grâce à la hausse des cours mondiaux. Avec 17 mines industrielles en exploitation, l'or a contribué à 13,13% au PIB en 2019 contre 10,6% en 2018. Pour terminer, le G20 a prolongé mercredi de 6 mois le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, durement affectés par le Covid-19. Ce moratoire ira donc jusqu'au 30 juin 2021, au lieu de finir à la fin de cette année comme initialement prévu. Des ONG pensent que le G20 devait soit prolonger le moratoire jusqu'à la fin de 2021, soit annuler les paiements de la dette des pays pauvres.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Bonne nouvelle pour Sadio Mané. Déclaré positif au Covid-19 il y a 11 jours, l'international sénégalais s'est déclaré guéri sur son compte Instagram. Heureux de faire mon retour, a écrit Sadio Mané. Le lion de la Teranga était absent lors de la débâcle de Liverpool devant Aston Villa 7-2. Il a repris le chemin de l'entraînement et sera apte pour le derby contre Everton le 17 octobre. Placé en isolement, Sadio Mané avait déclaré forfait pour les deux matchs amicaux de la sélection sénégalaise contre le Maroc et face à la Mauritanie. Le dernier match des Lions de la Teranga face au Mourabitoun a été annulé pour cause de 8 cas positifs au Covid-19 dans la délégation mauritanienne. Victor Moses dépose ses valises au Spartak Moscou. L'attaquant nigérian a ainsi quitté l'Inter Milan pour s'engager avec le club russe pour un prêt d'une saison avec option d'achat. L'ancien Super Eagles de 29 ans a rejoint en janvier dernier le club italien en provenance de Chelsea. La Juventus Turin a enregistré des pertes de 89,7 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2020, ont annoncé les champions d'Italie. La Juve, qui reste sur 9 titres nationaux consécutifs, avait déjà perdu 39,9 millions d'euros en 2018-2019. Il s'agit de la troisième année consécutive dans le rouge pour les comptes de la Juve, côté en bourse. Les conséquences de la pandémie de coronavirus ont eu un impact sur l'ensemble des clubs italiens. Malgré des baisses de salaires négociées avec les joueurs, l'AC Milan comme l'AS Rome ont ainsi vu leurs comptes plonger dans le rouge vif avec 195 millions d'euros de pertes pour le club lombard et plus de 200 millions d'euros de pertes pour la Roma. La FIFA a bouclé son enquête sur Yves Jean-Barthe, président de la Fédération haïtienne de football, accusé de viol sur des joueuses mineures et a suspendu dans ce même dossier une ancienne capitaine de l'équipe nationale. Partie d'une enquête du quotidien britannique The Guardian, publiée fin avril, les accusations de viol contre Yves Jean-Barthe
ont entraîné l'ouverture d'une enquête pénale en Haïti, ainsi que la suspension à titre provisoire du dirigeant par la FIFA depuis le 25 mai. Selon des jeunes filles citées par Le Guardian, Yves Jean-Barthe aurait violé de nombreuses joueuses mineures ces dernières années dans le centre national d'entraînement. Niant en bloc ces accusations, l'homme de 73 ans a porté plainte à Paris contre le journaliste français co-auteur de l'enquête du Guardian.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les usagers de téléphonie mobile se plaignent de la qualité du service offert par les opérateurs. Perturbation des réseaux quand il s'agit d'un simple appel et le coût excessif du forfait Internet, tels sont les manquements que dénoncent les abonnés de ces opérateurs. Une situation qui a amené l'autorité de régulation à infliger une lourde sanction à ces opérateurs. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
J'attends à ce que le coût de l'Internet au Tchad soit le moins élevé de la sous-région, tout en veillant à l'amélioration de la qualité des services fournis aux usagers.
C'est l'instruction du président tchadien Idriss Déby Itno à l'occasion du forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique tenu en 2019 à N'Djamena.
Et là où j'interpelle RTL, vous nous prenez beaucoup d'argent. Moi, je suis un abonné RTL aussi, mais c'est pas bon.
Un an après, trois opérateurs de téléphonie mobile installés au Tchad, notamment RTL, Tigo et Salam, n'ont pas toujours amélioré la qualité de leurs services, entre autres, le fait blessant du réseau, les datas, la messagerie, pour ne citer que cela. Au micro de VOA Afrique, le coup de gueule de certains abonnés.
Je trouve que le réseau du Tchad, c'est extrêmement cher par rapport au réseau extérieur, par exemple. Avec un 500 francs CFA, on peut facilement se connecter pendant 10 jours. Et comparé au réseau du Tchad, avec 500 francs, c'est comme si on utilisait seulement 100 francs.
On a du mal à passer même les simples appels, parce qu'à chaque fois, on te dit que ton correspondant n'est pas joignable. Soit on te met en attente. En temps, le temps passe et ça a un coût.
Ces plaintes ont amené l'autorité de régulation des communications électroniques à diligenter une enquête sur la qualité de services fournis par la société de téléphonie. Emmanuel Nadingar, président du conseil de régulation des communications électroniques et de poste.
L'audit de 2020 a relevé malheureusement des manquements sur plusieurs indicateurs mesurés et les engagements contenus dans le protocole d'accord signé en juin 2019 n'ont pas été respectés par Tigo et Airtel. Le Conseil a approuvé les sanctions pécuniaires pour les trois opérateurs s'élevant à 8 454 474 541 francs CFA.
Certains abonnés sont pessimistes quant à l'application de cette sanction.
La mauvaise prestation du service par ces téléphonies mobiles ne date pas d'aujourd'hui et CARCEP vient de sanctionner ces téléphonies mobiles. Il faut saluer leur courage, mais je reste toujours sceptique quant à l'application de cette sanction.
Personnellement, je prends avec beaucoup de réserve qu'est-ce qui a motivé cette sanction-là. Parce que le prix de l'Internet, par exemple, qui demeure dans la sous-région, est le prix cher et le gouvernement est là, témoin. Pourquoi personne n'a osé sanctionner ces opérateurs-là?
Le coordonnateur national du mouvement citoyen l'OTAN, Kemba Djida Alain, se réjouit de cette sanction et exige la levée de la censure sur le réseau social WhatsApp.
C'est une sanction pécuniaire qui nous réconforte dans notre position. Je pense que c'est déjà un premier pas, mais il faut continuer par mettre la pression pour que ces géants de téléphonie puissent répondre aux aspirations des consommateurs. Donc nous demandons ici la levée immédiate de la censure imposée sur le réseau social WhatsApp.
Pour l'heure, aucune réaction du côté des responsables de téléphonie mobile visés par la sanction.
L'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors de la zone de couverture.
André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La tension monte au Nigeria, des jeunes en colère, malgré la dissolution de l'unité de police chargée de la répression des vols. Des manifestations contre la brutalité policière se sont intensifiées au cours de la semaine, multipliant les demandes de réforme et de responsabilité. Les manifestants rejettent la nouvelle unité de police SWAT mise en place par les autorités fédérales pour remplacer SARS. Pour sa part, l'armée lance un avertissement à ceux qu'elle considère être des éléments subversifs et des fauteurs de troubles. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Depuis une semaine maintenant, les manifestations se poursuivent à travers le Nigeria pour protester contre la brutalité policière. Mobilisés via les médias sociaux, les rassemblements dirigés par des jeunes dans plusieurs régions du pays ont initialement ciblé la Brigade spéciale fédérale de lutte contre les vols, une unité de police notoire longtemps accusée de harcèlement, d'extorsion et d'exécution extrajudiciaire. Le gouvernement a annoncé une série de mesures, y compris la dissolution de l'unité de police redoutée, la brigade spéciale antivol connue sous le nom de SAS, ainsi que la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. Femi Adesina est le porte-parole du président nigérien.
Depuis le début de ces manifestations, des décisions sont en train d'être prises aux différents niveaux. Le président lui-même a reconnu que leurs demandes sont légitimes et que la dissolution de SARTS est la première étape d'une série de réformes qui viendra. Donc, si le président du pays, qui est le père de la nation, s'exprime ainsi, à quoi vous vous attendez encore?
Cependant, l'annonce n'a pas répondu aux attentes de nombreux manifestants qui se sont depuis engagés de continuer à lutter pour la fin des violences policières et une refonte complète de l'appareil de sécurité. Des centaines de manifestants à travers le pays affirment qu'ils resteront dans les rues jusqu'à ce que le gouvernement mette fin aux exactions policières. Nike Fououi fait partie des jeunes manifestants.
Notre problème est très simple, satisfaire nos demandes et faire accompagner cela par une action concrète. Donne-nous une loi votée par le Parlement et un ordre exécutif que les Nigérians vont voir que ce sera exécuté. La même façon qu'ils ont interdit beaucoup d'autres choses au Nigeria et qui ont été exécutées, nous voulons aussi voir ces actions se réaliser.
L'inspecteur général des services de police a annoncé la formation d'une nouvelle unité de police, le SWAT ou unité d'armes et de tactiques, ajoutant qu'aucun ancien membre du SAS ne serait recruté dans la nouvelle équipe du SWAT. Une décision qui n'a pas particulièrement convaincu la jeunesse. Afram Amakulo est un ancien inspecteur général adjoint des services de police du Nigeria.
Je pense que l'idée de créer le SWAT ne résout pas le problème. C'est un problème qui doit être une préoccupation du Parlement fédéral. Depuis plusieurs années, ils tentent de mettre en place une police communautaire. Donc, le gouvernement doit revoir la structure de leur appareil sécuritaire.
Dans la capitale fédérale, comme dans beaucoup d'autres États, la jeunesse était de nouveau encore aujourd'hui dans les rues. Dans une déclaration mercredi, l'armée a promis sa loyauté au président Buhari et a déclaré qu'elle était prête à soutenir l'autorité civile pour faire respecter la loi et maintenir l'ordre. La déclaration de l'armée nigériane a été perçue comme une menace voilée par les manifestants qui souhaitent une réforme de la police. Ebun Olu Adeboruma est avocat au barreau nigérian.
It's been a long battle in terms of reforming.
C'est depuis un long combat concernant la réforme et la manière avec laquelle les agents de sécurité interviennent et principalement la police. Nous avons les forces armées au Nigeria ainsi que d'autres comme l'armée, la marine, l'armée de l'air qui ne doivent pas se mêler des problèmes de la société civile n'importe comment. C'est le travail de la police.
On ne sait toujours pas si l'armée a l'intention de déployer des soldats dans les rues des États sous tension si les manifestations continuent. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Se dirige-t-on vers un reconfinement en France? Les commerçants craignent que cette mesure ne soit prise dans les prochains jours pour stopper la propagation du coronavirus, une pandémie qui a atteint un nouveau record dans le pays. Les bars sont totalement fermés dans les zones d'alerte maximale, comme à Paris et à Marseille. Les restaurateurs peuvent encore servir à table, mais ne sont pas à l'abri d'une fermeture totale. Ce reportage sur la communauté africaine de la capitale française est signé Elham Le Cœur.
Les restaurateurs parisiens se relèvent difficilement d'un premier confinement et d'un été sans touristes. Aujourd'hui, face à la deuxième vague de contamination au coronavirus, Amy s'avoue dubitative quant à l'avenir avec la menace d'une fermeture totale qui plane sur le secteur de la restauration.
Je pense qu'avec tout ce qui se passe tous les jours, le nombre de cas positifs, ça fait que s'élever. Donc on ne sait toujours pas à quoi s'attendre, quoi. Ça fait vraiment très 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 peur.
Alors comment ça se passe en cuisine ?
Le restaurant spécialisé dans la cuisine d'Afrique centrale et de l'Ouest est installé depuis 13 ans près des Champs-Élysées. Et c'est la première fois que l'établissement rencontre des difficultés financières avec une perte de plus de 30% de sa clientèle. Pour Amy, le climat anxiogène y est pour quelque chose, alors elle tente de rassurer les clients.
Moi je pense que c'est plus à l'extérieur qu'il y a des risques que dans les restaurants, parce que tous les restaurateurs respectent les règles sanitaires. Alors, et regardez ce qui se passe à l'extérieur. Dans les métros, dans les bus, dans les supermarchés, excusez-moi, on peut pas. Les gens, ils respectent pas les règles. Je pense pas que ce soit avec les restaurateurs qu'il y aura plus de problèmes qu'à l'extérieur.
Une profession en détresse qui lance depuis plusieurs semaines un cri d'alarme en France. Près d'un restaurateur sur deux a déjà glissé la clé sous la porte depuis le début de la crise sanitaire. D'autres survivent tant bien que mal, mais craignent de subir le même sort. Elham Le Coeur pour VOA Afrique, Paris.
Afflux sans précédent des Américains aux urnes pour le vote anticipé en prélude à la présidentielle du 3 novembre. Ils sont déjà plus de 14 millions à avoir voté, soit au moins 10 fois plus qu'aux précédentes élections, et des millions d'autres s'apprêtent à en faire autant avant le jour J. Qui sont-ils et quel impact leur vote pourrait-il avoir sur le scrutin? Réponse Caroline Pressotti, récit Lionel Gahima.
Alors qu'elle n'était qu'une fillette, Rita Rad avait quitté Cuba pour les États-Unis à travers l'opération Peter, initiative ayant évacué des milliers d'enfants non accompagnés de l'île communiste vers l'Amérique au début des années 1960. Elle redoute de renouer avec le socialisme en cas d'élection de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine.
C'est flirter avec le socialisme, avec cette sorte de gauche. C'est une grave erreur pour notre pays, une grave erreur.
Biden est immodéré, mais il est loin de persuader Rad, qui a choisi d'accorder son vote anticipé au président Donald Trump 2 semaines avant le jour du scrutin. D'aucuns disent que chaque jour est un jour de vote en Floride, l'État ayant enregistré le plus grand nombre de votes anticipés cette année. En effet, 2 millions de Floridiens comme Rita ont déjà accompli leur devoir civique. Mike Webby a été récemment victime d'un AVC, mais il en fallait plus pour l'empêcher de voter par anticipation et en personne pour Joe Biden.
He has a better idea of what's needed to get this country back.
Il a une meilleure idée de ce qui est nécessaire pour remettre le pays sur les rails. Je pense que sa politique est inclusive.
Les électeurs sont en train de battre tous les records de votes anticipés à travers le pays, que ce soit en personne ou par voie postale. Larry Clark est un électeur indécis de l'État de l'Ohio.
La distanciation sociale ne semble pas de mise dans certains groupes. C'est pourquoi je recours au vote anticipé cette année.
Ce n'est pas le cas de Christian Johnson, qui attend le 3 novembre pour voter. Il vend d'ailleurs des t-shirts portant cette date.
Tout le monde a peur maintenant. On a le coronavirus, on a ceci ou cela. Vous devez vivre également. Vous ne pouvez pas avoir peur ou vivre dans une bulle pour toujours.
Trump et Biden diffèrent quant à leurs consignes de vote. Le président encourage ses partisans à aller en personne aux urnes le jour du scrutin, affirmant sans preuve que le vote par voie postale est affecté par la fraude.
Soyez très prudents. Il y a beaucoup de manigances. Vous voyez ce qui se passe. Chaque jour, vous le lisez.
Biden a un message différent.
Vous pouvez encore demander à voter par voie postale. Faites-le aussitôt que vous le pouvez.
Historiquement, les républicains sont plus susceptibles de voter par anticipation, mais pas cette année. Selon les recherches de l'Université de Floride, les démocrates y recourent 2 fois plus que leurs adversaires. Richard Exner s'occupe des statistiques pour le site cleveland.com.
L'intensité est la plus élevée que j'ai jamais notée en termes non seulement de gens votant tôt,
mais voulant obtenir leur bulletin de vote tôt.
Même constat en Virginie, État qui vient après la Floride en termes de nombre d'électeurs votant par anticipation. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait se traduire par un taux de participation dépassant nettement les 55% des élections de 2007.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibudia et de Michel-Joseph à la mise en onde. Bonne journée à